Futurama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 22 avril 1961, le putsch d'Alger. Le 20 avril 1961, à 16h, en montant à bord du transport de troupes Nord 2501, le général d'armée Maurice Schall, ex-commandant en chef des troupes en Algérie, franchit le Rubicon. Il est désormais un clandestin, bientôt un rebelle. Originaire des montagnes de Provence, c'est un homme froid, qui n'est pas coutumier des coups de tête. Il réagit à l'expression « Algérie algérienne » prononcée par Charles de Gaulle le 4 novembre 1960. Quelques mois plus tôt, Maurice Schall rejoint Georges Bidault, Jacques Soustel, Marc Loriol, député d'Alger, les généraux André Zeller et Jean-Étienne Valuy, qui s'interrogent sur le devenir de l'Algérie. Il rencontre à l'école militaire des officiers supérieurs, dont le colonel Antoine Argout et le capitaine Pierre Sergent, ancien du 1er régiment étranger de parachutistes. Ils sont convaincus de l'urgence d'une révolution et surtout de la nécessité d'éliminer le président de la République qui est à leurs yeux la cause des maux de l'Algérie. Ils sont persuadés que l'armée est mûre pour s'emparer du pouvoir. Le vendredi 21 avril 1961, à 9h, l'état-major putschiste est réuni à Alger. Sont présents le général Gardy, ancien inspecteur de la Légion étrangère, André Zeller, préposé aux questions administratives, le général Edmond Jouot, un pied noir, chargé des contacts avec la population, et quelques officiers, dont le colonel Yves Godard, ancien chef de la Sûreté d'Alger, et le commandant Élie Denoît de Saint-Marc, patron par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes, qui sera le fer de lance du putsch. Maurice Schall fixe leur hache à 2h dans la nuit du 21 au 22 avril. Une heure plus tard, tous les objectifs sont atteints. Alger est prise. Dans la ville endormie, le pouvoir a changé de main. À l'aube, c'est la plus parfaite surprise. Les Algérois entendent la voix du général Schall annoncer « Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot en liaison avec le général Salan pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. » La première désillusion vient de Constantine, où le général Marie-Michel Gouraud hésite. Or, il contrôle la région du territoire algérien la plus tardivement pacifiée, celle où se trouve le plus de troupes d'élite. Finalement, il adopte une prudente position attentiste. En Kabylie, le général Jean Simon se démarque également. Au soir du 23 avril, Charles de Gaulle s'exprime. Il condamne sans appel les auteurs de la tentative de coup d'État. Un quarteron de généraux en retraite, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Ensuite, il délie les militaires de leur devoir d'obéissance envers leur chef, si ceux-ci suivent les généraux rebelles. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'allocution présidentielle porte, Maurice Schall s'en aperçoit vite, en Algérie, la situation se dégrade rapidement. À Oran, le général Henri de Pouilly refuse de s'engager aux côtés des putschistes. Il est arrêté sur l'ordre du général Zeller. L'aviation est opposée au coup de force La marine adopte une attitude semblable. Beaucoup de jeunes du contingent se démarquent des officiers factieux. Le 25 avril à 16h, Maréchal rassemble les chefs de corps restés fidèles. L'atmosphère est tendue. Il déclare avec gravité, « Messieurs, rentrez dans vos garnisons avec vos unités. L'affaire est finie. Nous avons échoué. Il faut maintenant en tirer les conséquences. Je ne vous laisserai pas payer tout seul. Rassurez-vous, ce n'est pas mon genre. » Après l'intervention de Jean-Jacques Susini, le petit maître à penser de la future organisation armée secrète, l'OAS, il rejoint le peuple d'Alger. À 18h45, il arrive au siège du gouvernement général pour signer l'ultime pièce du putsch, une déclaration à la population annonçant la mobilisation de 8 classes de pieds noirs et conseillant à tout le monde de prendre les armes pour sauver l'Algérie française. Mais cet appel reste sans réponse. Ensuite, il exprime à Raoul Salan son désir de se livrer. À 23h, André Zeller revêt des vêtements civils, puis après avoir salué ses camarades, se perd dans la foule. À minuit, Maréchal éteint les lumières pour que les Algérois massés sur le forum se dispersent. À 1h du matin, accompagné de Raoul Salan et Edmond Jouot, il évacue le bâtiment du gouvernement général, puis monte dans un camion militaire pour gagner la base de Zeralda. Là, il prend congé de ses acolytes. Pour eux s'ouvre la perspective d'une vie clandestine au sein de l'organisation armée secrète. Maréchal et Élie Denoy de Saint-Marc se retrouvent seuls. À 9h, une Citroën anonyme conduite par un adjudant de gendarmerie quitte Zeralda. À l'arrière sont assis en civil Maréchal et un lieutenant-colonel de l'état-major. Cette fois, le putsch est bien fini. Il a duré 4 jours et 5 nuits. L'armée d'Algérie en sort à jamais brisée. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire. Un jour, 3 livres. C'est Enrico Macias qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1980, La France de mon enfance.
La France de mon enfance n'était pas en territoire de France, perdue au soleil du côté d'Alger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, juste avant son rêve d'indépendance. Elle était fragile comme la liberté. La France, celle où je suis né. Le soleil n'était pas celui de Marseille. Ma province n'était pas ta Provence. Je savais déjà que rien n'était pareil. Et pourtant, mon cœur était en France. De mon enfance, mon pays, ma terre, ma préférence. Avait une frontière méditerranée. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance n'avait pas tous ces murs de silence. Elle vivait en paix sous les oliviers. La France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence. mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance. Son prénom était un nom étranger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, moi je pleure encore de son absence. Elle était française, on l'a oubliée. La France, celle où je suis né.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Ce sera un livre aujourd'hui, mais un livre de très grande qualité qui m'a énormément touché par la narration d'un récit particulièrement saisissant, L'échelle des Jacobs. C'est signé Gilles Jacob et c'est publié aux éditions Grasset. Délégué général du Festival de Cannes durant quatre décennies, Gilles Jacob revient sur son parcours qui se conjugue à celui de ses parents. Cela donne un livre touchant, la saga d'une famille de la bourgeoisie juive française du XXe siècle. Les Jacob trouvent leurs racines en Moselle, à Ennery, non loin de Metz. André, la figure paternelle, grandit à Nancy. Lieutenant durant la Grande Guerre, il est blessé le 25 juillet 1918 lors de la seconde bataille de la Marne. Il est titulaire de la Croix de Guerre avec palme. Au lendemain du premier conflit mondial, il quitte la Lorraine pour Paris. Avec ses deux frères, il fonde une société de négoce en biens immobiliers qui développe son activité à travers la Normandie. En 1926, il épouse Denise Lévy, dont le père dirige la compagnie Est Lumière, qui deviendra la compagnie parisienne de distribution d'électricité. C'est une femme émancipée qui possède une automobile qu'elle conduit avec plaisir. Elle suit les cours de l'école du Louvre où elle apprend l'art de la reliure. Gilles Jacob voit le jour le 22 juin 1930. Il a un frère de 2 ans, son aîné, prénommé Jean-Claude. Durant la Seconde Guerre mondiale, Denise s'installe à Nice avec ses 2 enfants qui étudient au lycée Masséna. André, devenu capitaine, est prisonnier de guerre à Leuben, dans le Brandebourg. Il est libéré à l'été 1941 en qualité d'ancien combattant de la Grande Guerre. Les Allemands occupent bientôt la Côte d'Azur. Les Jacob adoptent le patronyme de Joubert. Les enfants sont cachés dans le Dauphiné par les pères assomptionnistes de l'alumnat du Saint-Rosaire de Miribel-les-Échelles. Leur mère les accompagne. André se cache à l'Isle-Adam chez un compagnon d'armes. À la Libération, la famille retrouve la capitale. Gilles est admis en Hippocagne au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Passionné de cinéma, fasciné par Citizen Kane, il fonde une revue intitulée Raccord, dont François Truffaut est l'une des plumes. Il échoue au concours de l'école normale supérieure et rejoint à contre-cœur Toledo, la société de pesage dirigée par son père. En parallèle à son activité d'entrepreneur, il devient critique pour les revues cinéma et les nouvelles littéraires. Sa signature apparaît également dans les pages de l'Express. En toile de fond de ce récit émouvant apparaît le cousin François Jacob, héros de la Résistance, compagnon de la Libération, généticien de renom, titulaire en 1965, du prix Nobel de médecine, directeur de l'Institut Pasteur et membre de l'Académie française. C'est la figure tutélaire pour laquelle Gilles Jacob témoigne d'une profonde admiration. L'échelle des Jacob, c'est publié aux éditions Grasset et c'est signé Gilles Jacob, je vous recommande tout particulièrement sa lecture. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Nous nous séparons en chanson avec toujours Enrico Macias, peut-être l'un de ses plus grands succès. C'est un enregistrement réalisé à l'Olympia en 1980, le mendiant de l'amour.
La tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Laissez-moi vous dire la générosité. C'est une larme sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, donnez,
donnez, donnez-moi.
Donnez, 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 donnez,
Dieu vous le rendra.
Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Donnez, 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 donnez,
donnez, donnez-moi.
Donnez, donnez, donnez,
Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra.
Oh,